L'accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. En Roumanie, l'Alliance pour l'unité des Roumains, également appelée AOUR, bouscule l'ordre politique. Eurosceptique, ultranationaliste et anti-vax, ce parti, qui souhaite la réunion des peuples roumains et l'annexion de la Moldavie, devrait, selon les sondages, obtenir autour de 20% des voix aux élections européennes de dimanche. Ces dernières années, AOUR a beaucoup recruté dans la jeunesse. Son chef, George Simion, s'est d'ailleurs bâti une célébrité sur TikTok, en direct, téléphone en main, en attaquant verbalement ses adversaires ou ceux qu'il appelle, je cite, les LGBTistes qui détruisent la Roumanie. Et face à cette campagne agressive, surtout destinée à capter l'attention d'une jeunesse qui émigre massivement, les partis au pouvoir n'ont pas su réagir. Reportage à Bucarest, Léonard Vincent.
Atunci când vom vota AOUR.
Votul vostru contează. Dacă veniți la vot, n-au cum să fure milioane de voturi.
On zappe sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. D'un coup de pouce, on passe d'une vidéo à l'autre et c'est toujours le même message. Votez le 9 juin, mais votez pour AOUR, le parti nationaliste aux couleurs jaune et noire. Le seul, selon ses orateurs, à lutter contre ce qu'ils appellent la mafia des partis au pouvoir. Le seul qui, selon eux, entend résister à l'invasion de l'étranger à l'Ouest décadent et ses valeurs douteuses. Une figure domine, celle de George Simion, le leader du parti qui se met volontiers en scène sur TikTok, en rebelle, en résistant, en bagarreur qui ne s'en laisse pas compter. C'est ainsi qu'AOUR domine aujourd'hui l'univers numérique roumain et c'est ainsi qu'il recrute agressivement un nouvel électorat, les jeunes délaissés jusque-là par les autres partis. La politologue Daniela Burciu du Centre de recherche indépendant Global Focus Center de Bucarest a passé ces derniers mois à examiner ses publications.
Regardez la rhétorique de peur utilisée par les acteurs de l'extrême droite. C'est une rhétorique qui est ensuite transformée en rhétorique de galvanisation des jeunes. Leur message commence par dire que le pays est au bord de la destruction, que nous perdons notre identité nationale, que nous enchaînons crise après crise. Et après ce discours alarmiste, ils disent aux jeunes qu'ils sont l'ultime génération qui peut sauver le pays de la destruction, des forces venues de l'extérieur, des puissances occidentales qui essayent de leur voler ce qu'ils possèdent, de changer leur identité, de changer qui ils sont, de mettre en danger notre culture, nos traditions et tout ce qui est roumain.
Comme sur la plupart des campus du monde entier, beaucoup d'étudiants de l'université de Bucarest prennent le soleil penché sur leur téléphone. Constantin a 20 ans, il est étudiant en deuxième année de sciences cognitives. Lui votera pour le candidat indépendant écologiste et sa vision de la scène politique roumaine montre comment l'extrême droite s'est engouffrée dans l'espace laissé par la coalition qui se partage le pouvoir, les sociaux-démocrates du PSD et les libéraux du PND.
C'est bizarre qu'il n'existe pas de séparation claire entre ces deux formations politiques qui sont supposées être différentes en théorie. Pour s'opposer à l'extrême droite, ils se sont fondus l'un dans l'autre. Ils présentent une liste unique pour les élections européennes et ils pensent que c'est la meilleure chose à faire pour la stabilité de la société. Mais à mon avis, il s'agit surtout de sauvegarder leur poste d'élection en élection en jouant sur la peur des gens.
Désabusés par le jeu politique, détournés des médias dominants, les jeunes rencontrés sur le campus se disent pour la plupart oubliés par les partis traditionnels qui se soucient surtout, selon une étudiante en psychologie, des classes sociales dont leurs cadres sont issus. Et donc, si les étudiants se mêlent ouvertement de politique aujourd'hui, c'est plutôt pour soutenir la cause palestinienne. Un campement a même été monté fin mai sous les arbres du jardin, un campement solidaire que Roman fait visiter.
On voit ici ce qu'on voit partout dans les campus du monde entier. Nous avons des tentes, une cuisine, un lieu de stockage de vivres et aussi une librairie.
Et ils ont même un porte-parole tournant pour les médias. Aujourd'hui, c'est Matei, cheveux longs, veste militaire, et un message au nom des étudiants pour les militants d'un parti comptant des antisémites parmi ses membres.
Un type de Aour est venu ici. Nous avons été clairs avec lui. Nous ne soutenons pas du tout son parti. Nos opinions politiques et sociales sont très éloignées. Nous refusons toute idée discriminatoire. Nous ne voulons pas être associés à ce genre de choses.
Mais c'est une autre jeunesse, plus rurale, plus pauvre et plus nombreuse aussi, qu'Aour a su courtiser, explique Daniela Burcio.
Les partis centristes ont, pour l'essentiel, ignoré la jeunesse pendant des années parce que les jeunes ont toujours été perçus comme silencieux, refusant de participer à la vie politique. L'extrême droite a remarqué ce vide et l'a exploité. Récemment, j'ai pu constater, malgré tout, que les partis traditionnels ont tenté d'investir les réseaux sociaux après avoir remarqué le succès des partis d'extrême droite. Mais ils ont aussi évoqué l'idée d'interdire TikTok, ce qui a été très mal perçu et exploité aussi. Et ça a été la seule réponse qu'ils ont apportée aux acteurs politiques, mais aussi aux influenceurs et aux célébrités qui promouvaient un discours extrémiste, la désinformation et les discours toxiques. Ils ont été bien moins capables de canaliser les besoins de l'électorat que Aour. Ils sont restés ancrés dans leur vieille stratégie parce qu'ils se disent que tout a bien marché pour eux jusque-là et parce qu'ils ont basé leur campagne sur le système clientéliste qui prévaut en Roumanie, surtout au niveau local. Ils ne se sont pas souciés de capter un nouvel électorat. Ils sont restés persuadés qu'ils feront un bon score, quoi qu'il arrive.
À Bucarest, comme ailleurs en Europe, sans réponse efficace face à la montée des nationalistes, on attend donc la nouvelle donne politique avec résignation.
C'est une première en Belgique. Dimanche, les jeunes iront, dès l'âge de 16 ans, glisser un bulletin dans l'urne pour les européennes. Dans ce pays, le vote est obligatoire et comme tous les autres citoyens, ces jeunes seront obligés d'aller voter, mais ils ne s'exposeront pas à des sanctions s'ils ne se déplacent pas. Alors comment ces nouveaux votants envisagent-ils leur première élection ? Élément de réponse avec notre correspondante à Bruxelles, Laure Broulard.
Pourquoi voter ? Première proposition, ça ne m'intéresse pas. Deuxième proposition, c'est faire entendre sa voix. Troisième proposition, c'est éviter la dictature.
Le débat est lancé pour cette session de sensibilisation au vote organisée par l'association Forum des Jeunes devant une classe de 5e secondaire. Nous sommes à Hatte, une petite ville de Wallonie. Les élèves ont entre 16 et 18 ans. Ils voteront pour la première fois le 9 juin prochain. Tania, 17 ans, estime que voter permet d'éviter la dictature.
Depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit que c'était important et tout de voter. Comme en Russie, par exemple, il y a des votes, mais on sait tous un peu que c'est truqué, voilà. Et du coup, moi, ma famille vient de là, donc ils m'ont toujours appris que c'était important.
Mais elle n'a pas été convaincue par les candidats qui sont venus présenter leur programme quelques jours plus tôt aux lycéens.
Mais je suis contente de pouvoir voter et d'un autre côté, je suis un peu démoralisée quand j'ai rencontré certaines personnes des partis qui sont venues présenter chaque fois leur parti. Ils n'adaptent pas leur vocabulaire aux jeunes. Ils nous ont un peu pris de haut, comme si on était des jeunes mais que ça ne servait à rien, alors qu'on représente, je pense, quand même une petite partie du pays.
Alors, se faire entendre sa voix, eh bien, vous pouvez vous mettre là pour prolonger.
Les jeunes de 16-17 ans représentent moins de 3% des électeurs belges. Ils ne pourront donc pas véritablement impacter le résultat du scrutin, mais les primo-votants, si, puisque près d'un million de jeunes entre 16 et 22 ans résident dans le pays, soit potentiellement près de 10% du corps électoral. Lors des précédentes élections en 2019, les principales préoccupations des Belges entre 18 et 30 ans étaient l'écologie, l'emploi et l'immigration. Mais dans ce lycée d'Hatte, à quelques jours du scrutin, beaucoup n'ont pas encore choisi leur liste et restent très indécis. Morgane assure ne s'être jamais intéressée à la politique, mais comme le vote sera obligatoire, elle a fait ses recherches, sans toutefois y voir plus clair sur les enjeux liés aux élections européennes.
J'ai regardé chaque parti, je suis en train de regarder la liste même de chaque nom, je tape chacun des noms et je regarde ce qu'ils proposent, même si honnêtement ça ne m'intéresse toujours pas. Je préfère prendre ça au sérieux.
Est-ce que vous avez une idée de ce qui, au niveau de l'Europe, peut influencer votre vie ?
Non, pas vraiment.
Reste qu'ici, la plupart des élèves voient dans le vote dès 16 ans une mesure positive. Rami est l'un des plus enthousiastes.
C'est une très bonne chose pour notre génération, parce qu'on va plus s'impliquer dans la vie politique et dans notre société, quoi.
Quels sont les sujets qui vont vous donner envie particulièrement d'aller voter le 9 juin ?
Tout ce qui est droit humain, droit aux personnes en Europe et tout ce qui est diplomatie internationale, comme les problèmes au Proche-Orient, les problèmes en Russie et partout dans le monde, aussi en Afrique. Et voilà.
Le vote des 16 ou 17 ans est déjà une réalité en Autriche, à Malte ou encore en Grèce, avec des résultats plutôt encourageants, selon Robin Lebrun, du Centre d'études de la vie politique à l'Université libre de Bruxelles.
On voit qu'on peut augmenter l'intérêt politique à assez court terme, qu'on peut augmenter la participation politique au scrutin, mais aussi en dehors de la politique institutionnalisée. Donc il y a déjà des résultats intéressants. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que le niveau d'intérêt politique, il tend à se stabiliser une fois qu'on arrive à l'âge adulte. D'où l'intérêt d'abaisser un vote à 16 ans pour avoir une première expérience de vote qui déclenche un certain intérêt à un âge où ça a plus d'importance qu'une fois qu'on est un petit peu plus âgé.
Reste l'importance de l'éducation à la vie politique, qui se fait aujourd'hui principalement dans le cercle familial, mais avec de grandes disparités. Le chercheur estime donc que l'école pourrait avoir un plus grand rôle à jouer dans la sensibilisation des plus jeunes.
Élections européennes toujours, le scrutin se déroulera aussi en Afrique. Les deux continents partagent en effet une frontière terrestre, celle de Ceuta et Melilla. Ces deux enclaves espagnoles entourées de terres marocaines et hérissées de barbelés qui font souvent la une de l'actualité migratoire. À quelques jours du 9 juin, quelles sont les préoccupations des habitants ? Quel intérêt ces citoyens d'Espagne portent-ils au scrutin ? C'est le reportage de notre correspondante au Maroc, Nadia Ben Marfoud.
Melilla est une forteresse, longée par la mer Méditerranée d'un côté et une barrière de près de 10 km de l'autre. Cette barrière a été construite et renforcée au fil des années pour s'assurer que la frontière avec le Maroc est bien hermétique. Bien que située sur le continent africain, Melilla est une ville espagnole. Architecture, langue ou encore rythme de vie, pas de doute, nous sommes bien en Espagne. On retrouve Pépé sur la terrasse du café Luni. Il est né à Melilla et y a toujours vécu. Pour lui, impossible de douter de l'identité espagnole de sa ville.
Nous appartenions au royaume espagnol bien avant que se constitue le Maroc. Et naturellement, l'histoire espagnole ne peut pas être oubliée. Certains considèrent que les villes de Ceuta et Melilla sont des enclaves. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des villes espagnoles. Le Maroc se situe sur le continent africain. Ceuta et Melilla sont sur le continent africain, tout comme d'autres pays comme la Mauritanie ou l'Algérie. Mais il faut reconnaître que ces villes n'ont jamais été marocaines. Et par conséquent, elles n'ont jamais été des enclaves. Et donc, nous allons voter. Parce qu'ici, c'est l'Espagne, c'est une obligation, c'est notre devoir.
Mais Melilla a été conquise par la couronne de Castille en 1497. Cette présence en Afrique du Nord était fondamentale pour les visées expansionnistes espagnoles de l'époque. Cela fait donc 5 siècles que Melilla est espagnole, les habitants revendiquent cette identité et donc, en tant qu'espagnols, ils iront voter le 9 juin prochain. Mais aux dernières élections européennes, on a compté un taux de participation de 60%. Pour Enrique Alcoba, président de la Confédération des entreprises et des commerçants de Melilla, on ne vote pas assez dans sa ville alors que les résultats de ces élections européennes sont cruciaux selon lui.
Nous sommes en première ligne, là où nous endurons l'immigration et les problèmes de toute l'Afrique. Et nous sommes la frontière sud de l'Europe. Il est donc important que l'on soit protégé militairement et politiquement. Nous avons non seulement besoin de l'Espagne, mais aussi de l'Europe. La première chose que nous voulons, c'est la sécurité. Une fois la sécurité assurée, nous devons continuer à faire fonctionner l'économie. D'abord la sécurité, puis l'économie, pour revenir à la normalité que nous souhaitons tous.
Les entrepreneurs méliliens rêvent d'un retour à la normale car depuis 2018, Rabat a fermé les douanes commerciales avec l'enclave alors qu'elle dépend du commerce transfrontalier. Aucun produit provenant de Melilla ne peut passer du côté marocain. 70% des marchandises ici étaient destinées au Maroc. Cela représente donc un manque à gagner de plus de 100 millions d'euros par an. La ville est au bord de l'asphyxie. Mais il y a un autre problème latent pour l'enclave, celui de la pression migratoire. Si en 2023, seuls 21 migrants ont pu atteindre Melilla, en 2022, ils étaient près de 1000 à avoir réussi à traverser la frontière par voie terrestre ou maritime depuis le royaume chérifien. Mais pour Miguel Marine, vice-président du gouvernement de Melilla, la résolution de ce problème dépend autant du Maroc que de l'Union européenne.
La pression migratoire du Maroc vers l'Europe dépend du Maroc. Quand Rabat veut qu'il n'y ait pas d'immigration irrégulière, il n'y en a pas. Quand Rabat veut faire pression sur l'Europe ou l'Espagne, il ouvre la porte et laisse entrer tout le monde. Et c'est pourquoi l'Europe doit également parler au Maroc et exiger qu'il mette en place un contrôle de l'immigration plus efficace. Il y a des décisions qui nous affectent et c'est pour cela que les élections européennes à Melilla sont très importantes.
Depuis plus de 20 ans, Maïté Charté s'occupe des jeunes migrants en difficulté et dirige l'association Mec de la rue dans l'enclave espagnole. Pour elle, les habitants de Melilla n'ont pas de sentiment d'appartenance à l'Union européenne.
Ce que les gens voient de l'Europe, c'est que la barrière de Melilla est payée avec l'argent européen ou encore que notre plage est reconstruite avec l'argent européen. C'est un peu l'idée que les gens se font de l'Europe. Ils se disent, elle nous envoie de l'argent et grâce à l'argent dont elle dispose, nous faisons telle ou telle chose ou la ville s'améliore. Mais ils n'ont pas conscience d'être européens. Ils n'ont ni le sentiment d'être européens, ni conscience d'être tributaires de ces lois. Donc au moment des élections, ils ne savent pas pour qui voter, ils ne savent pas comment et former le gouvernement européen. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Nous disons que les élections se déroulent ici sans douleur et sans gloire.
Pas d'affiches, pas de meeting, on ne trouve aucun signe de campagne menée dans les rues. Les Méliliens ne s'informent donc pas auprès des acteurs politiques locaux, mais plutôt via les médias nationaux. La campagne pour les élections européennes se passe surtout de l'autre côté de la Méditerranée.
Musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Direction la Suisse avec le nouvel album d'une chanteuse qui nous avait beaucoup plu il y a quelques années à Accent d'Europe.
On avait découvert Flesh Love et son R&B voyageur en 2019 avec un premier album intitulé Naga Part 1, suivi d'un deuxième volet en 2021. La musicienne suisse d'origine algérienne Amina Kadeli revient ce printemps avec Guérison, troisième album sous le nom de Flesh Love, qu'elle a imaginé comme la bande-son de son enfance à Genève, marquée par la culture berbère de sa mère, mais aussi comme un carnet de voyage. Voyage intérieur d'abord, puisqu'elle y évoque sa dépression, périple autour du monde ensuite, puisque l'album est traversé par différentes langues et sonorités, flûte traditionnelle, percussion ou chœur gospel, habille des chansons profondément spirituelles.
Le temps s'est fait long, j'ai vécu des milliers de vies. Avant d'être celle qui est à tes côtés, j'ai la sensation d'avoir la peau distendue, à force d'avoir été, tout autre. Parfois un coup de vent suffit à révéler ce qui gît sous l'épiderme. On ne peut pas cacher indéfiniment l'univers tout entier. Indéfiniment l'univers tout entier. Entends-tu le son de ma voix? Je suis là.
Flesh Love sur RFI avec Amour Quantique, un titre à retrouver dans le podcast d'Accent d'Europe. Une émission réalisée par Françoise Grelot. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de l'actualité sur la Radio du Monde.